Avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après les bombardements et les premières victimes, la Turquie démarre la phase terrestre de son offensive sur le nord-est de la Syrie. Nous rejoindrons notre correspondant dans la région dans un instant, puis nous irons à Washington pour tenter de comprendre la réaction ambiguë de Donald Trump face aux Kurdes visés par la Turquie.
Direction aussi la Tunisie dans ce journal. Le candidat Nabil Karoui est sorti de prison hier, à 4 jours de la présidentielle.
Il faut trouver 14 milliards de dollars minimum. Le fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme tient son sommet à Lyon aujourd'hui. Il ambitionne d'éradiquer ces 3 maladies infectieuses d'ici 2030.
Comment changer le quotidien des fonctionnaires pour les rendre plus efficaces et plus heureux? Ils rendent leurs propositions et cela en dit long sur leur ressenti face à leur administration, vous l'entendrez.
Après ce journal, le billet politique de Frédéric Seitz et cette question, la suppression de l'ISF sera-t-elle le boulet du quinquennat d'Emmanuel Macron? Nous retrouvons Frédéric dans un quart d'heure. Au moins une dizaine de morts et des milliers de déplacés, des milliers de Syriens fuyant leurs habitations. Voici le premier bilan ce matin, bilan provisoire évidemment, de l'offensive lancée par la Turquie dans le nord-est de la Syrie, à la frontière entre les deux pays. Pour faire un point sur les premiers combats et sur la nuit qui vient de s'écouler, nous rejoignons notre correspondant dans la région, Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour Clara.
Aurélien, l'offensive turque a d'abord été aérienne, puis l'armée est entrée sur le territoire syrien.
Oui, les bombardements turcs se sont poursuivis cette nuit, là où ils avaient commencé dans l'après-midi hier, dans les secteurs de Ras Al-Ain et Al-Tabiad, là où se sont retirés lundi des forces spéciales américaines. Et puis ces bombardements sont étendus ensuite à Kobané, ainsi qu'à Kamishlo, la grande ville du nord du Kurdistan syrien, proche de la frontière irakienne. Des raids aériens, mais surtout des tirs d'artillerie, près de 200 frappes avant une deuxième phase terrestre donc lancée dans la soirée, à travers des brèches ouvertes dans le mur qui sépare les deux pays. Hier soir, les forces kurdes parlaient de combats tout au long de la frontière. Ce matin, elles disent avoir repoussé un assaut dans le secteur de Tal Abyad.
Alors Aurélien, cette offensive turque pose ce matin plusieurs questions, deux questions plus humanitaires, celle des réfugiés et celle des prisonniers.
Oui, panique et exode de milliers de civils, vous le disiez depuis hier, pour fuir les zones frontalières bombardées. Les forces kurdes ont aussi suspendu leurs opérations contre les cellules dormantes de Daesh pour se concentrer sur la résistance à l'offensive turque. Les unités médicales présentes dans les camps qui abritent des milliers de civils sympathisants de Daesh, par exemple le camp d'Al-Hol avec 70 000 personnes, dont des familles françaises. Ces unités médicales sont redéployées aujourd'hui pour s'occuper en priorité des civils ou des combattants kurdes blessés. Les forces kurdes alertent d'ailleurs sur une dégradation de la situation déjà déplorable dans ces camps qui va compliquer encore leur sécurisation. Idem pour les prisons où les Kurdes détiennent près de 10 000 djihadistes, dont 2 000 étrangers. Hier, ils ont remis aux États-Unis 2 figures importantes de Daesh qui ont été transférées en Irak.
Merci beaucoup Aurélien Colli, correspondant de France Culture dans la région en direct ce matin. Alors, quelle réaction face à cette offensive turque et nous l'entendions face à la possible fuite de djihadistes, excepté l'allié russe qui se fait discret. Une majeure partie de la communauté internationale condamne cette initiative. À la demande de 5 pays européens dont la France, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir dans la journée à New York. Et à quelques centaines de kilomètres de là, à Washington, le président américain réprouve également l'offensive. Mais à la Donald Trump, finalement, il a tenu des propos assez étranges sur les Kurdes qui étaient jusque-là les alliés des États-Unis. Récit de la soirée à Washington, signé Grégory Phillips.
Dans la Roosevelt Room de la Maison-Blanche, Donald Trump prévient à nouveau le président Erdogan. J'anéantirai son économie si l'opération se passe mal. J'espère qu'il agira de manière rationnelle. Puis les reporters pressent Trump de questions sur les Kurdes, ses alliés abandonnés aux mains des Turcs. Et le 45e président des États-Unis a cette étrange réponse, visiblement inspirée d'un article qu'il a lu quelques heures plus tôt sur le site conservateur Town Hall. Les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale, pas aidés en Normandie par exemple. Et nous, on a dépensé énormément d'argent pour eux, en termes d'armement, de munitions. Ceci étant dit, nous aimons beaucoup les Kurdes. En vérité, personne ne comprend vraiment ce que veut dire le président américain. Alors un journaliste le relance sur les djihadistes prisonniers et sur ce qu'ils risquent de devenir au cœur de cette bataille. Eh bien, ils vont s'échapper vers l'Europe, c'est là où ils veulent retourner, chez eux. Avec un Donald Trump fluctuant sur cette question kurde, le Congrès américain, lui, est pressé d'agir. Des sénateurs démocrates et républicains, ensemble, ont menacé hier Ankara de sanctions financières infernales si les troupes turques ne se retiraient pas immédiatement de Syrie.
Deux sénateurs qui ont en effet proposé de geler les biens de hauts dirigeants turcs aux États-Unis, y compris les biens du président Recep Tayyip Erdogan. C'était Grégory Phillips à Washington pour France Culture. J'ajoute la réponse d'Ankara, du pouvoir turc, hier soir. Il rejette toutes ces critiques, les renvoyant vers les Occidentaux, qu'il accuse, je cite, de tuer et d'affamer des civils en ce moment au Yémen. Conseil de sécurité de l'ONU prévu donc dans la journée. Il est sorti de prison à 4 jours du second tour de la présidentielle tunisienne. Le finaliste Nabil Karoui y aura passé 1 mois et demi pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. La Cour de cassation a finalement accepté une énième demande de libération de sa part. Face au juriste indépendant Kaïs Saïd, le patron de télévision se lance donc dans la campagne. Elle a débuté dès la sortie de prison hier soir. Maureen Mercier y était.
Ambiance de match de football devant le QG de Nabil Karoui. Des dizaines de journalistes, 200 personnes.
Je suis très content. Vive la droite.
Vive le droit. Pour ses partisans, c'est la fin d'une injustice. Pour eux, Nabil Karoui était un prisonnier politique. Ses adversaires auraient voulu l'écarter pour l'empêcher de l'emporter alors qu'il était premier dans les sondages. Nabil Karoui est certes libéré, mais toujours inculpé pour fraude et blanchiment d'argent.
On est contente de voir Nabil Karoui en liberté.
Pourquoi vous le soutenez ?
Pour sauver la Tunisie.
Les femmes de la Tunisie sont très solidaires avec Nabil Karoui.
Ici, ces femmes en sont persuadées, c'est l'homme qui pourra contrer les islamistes, notamment du parti Ennahda, qui viennent de remporter le plus grand nombre de sièges aux élections législatives. Il reste 2 jours de campagne électorale. Les partisans de Nabil Karoui espèrent qu'il pourra encore renverser la tendance. Les sondages officieux donnent son adversaire vainqueur. Ils espèrent que les deux candidats pourront s'affronter dans un débat télévisé et que la verve de l'homme d'affaires puisse l'emporter sur l'austérité du juriste Kaïs Saïd. Pour l'heure, bon nombre de Tunisiens estiment que ces deux candidats ne les représentent pas. À quelques pas, ce chauffeur de taxi votera, mais pour
Kaïs Saïd.
Pour écarter Nabil Karoui. Il rappelle qu'avant même son arrestation, les adversaires de Nabil Karoui le surnommaient déjà le Berlusconi tunisien.
La même mafia.
Qui, du mania des médias ou de Kaïs Saïd, l'austère constitutionnaliste, deviendra président ? Verdict, dimanche.
C'était Maureen Mercier qui suit pour nous cette folle campagne présidentielle en Tunisie. Le suspect de l'attentat en Allemagne de l'Est, à Halle, a été arrêté. Il s'agirait d'un homme d'extrême droite. Il a tué hier 2 personnes, en a blessé 2 autres dans une synagogue et dans un restaurant, filmant et diffusant la vidéo en direct pendant 35 minutes sur la plateforme numérique Twitch. Le parquet antiterroriste allemand s'est saisi de l'enquête et le ministère de l'Intérieur évoque clairement une attaque antisémite. Ses motivations à lui restent encore un peu floues, mais là aussi le parquet antiterroriste mène l'enquête. En France, la clé USB de Michael Harpon est toujours en cours d'analyse. Elle contenait des vidéos de propagande du groupe État islamique. Michael Harpon a tué 4 policiers, 4 collègues dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris jeudi dernier avant d'être abattu. Notons par ailleurs que la manifestation prévue aujourd'hui à Gonesse en mémoire de l'assassin a été interdite et son organisateur, un activiste politique d'Aulnay-sous-Bois, a été placé en garde à vue.
8h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal et cette question à présent, qui donnera et combien pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose?
Les représentants des pays donateurs sont en ce moment à Lyon pour décider de cette enveloppe. Le fonds espère atteindre les 14 milliards de dollars pour les 3 années à venir, car il y a encore des progrès à faire, Tara Schlegel.
Le sida tue encore 1 million de personnes dans le monde chaque année et la lutte ne doit connaître aucun répit. Voilà en substance le message que la société civile adresse aux pays donateurs réunis à Lyon aujourd'hui. La communauté internationale est encore loin des objectifs qu'elle s'est fixés elle-même pour éliminer d'ici 11 ans le VIH notamment. Que 90% des séropositifs soient conscients de leur statut. Ainsi en France, ce chiffre tourne-t-il autour de 86% quand il n'est, au Maroc par exemple, que de 75%, et dans un un pays comme le Mali, seulement d'à peine 40%. Il est donc indispensable que le Fonds mondial continue notamment à financer les associations communautaires qui parviennent à dépister les populations les plus vulnérables et assurent, dans certains pays où le système de santé est très désorganisé, l'accès même aux médicaments. Les États-Unis sont de loin le premier donateur du Fonds mondial avec plus de 4 milliards de dollars sur les trois dernières années. La France est deuxième avec 1,08 milliard, talonnée par la Grande-Bretagne qui risque fort de nous doubler lors du round qui se tient en ce moment à Lyon. Les ONG espèrent que Paris fera progresser de 25% sa contribution, ce qui serait un signal fort. La balle est donc dans le camp d'Emmanuel Macron.
Et c'est d'ailleurs aujourd'hui que le président français doit dévoiler l'enveloppe française. Fin des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi bioéthique. Un texte qui a beaucoup fait réagir, qui a suscité autant d'applaudissements que de critiques, notamment sur la question de l'ouverture à la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Pourtant, d'autres sujets, de nombreux sujets, ont été débattus et votés ces dernières semaines, Maïwenn Bordron.
C'est l'une des mesures importantes du projet de loi de bioéthique, l'autoconservation des ovocytes pour toutes les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, une femme pouvait congeler ses ovocytes sous certaines conditions. Il fallait par exemple qu'elle soit atteinte d'endométriose ou d'un cancer. Le projet de loi de bioéthique prévoit d'étendre ce procédé à toutes les femmes sans raison médicale. Certaines conditions ont toutefois été prévues, comme l'instauration d'une tranche d'âge. La limite d'âge n'a pas encore été fixée, mais elle sera définie plus tard par décret. Autre mesure qui concernera plutôt les généticiens et les chercheurs. Les députés ont voté une simplification de la recherche sur les cellules souches à l'état embryonnaire. Avant, les scientifiques devaient demander une autorisation à l'Agence de la biomédecine. Désormais, ils n'auront qu'à déclarer leur travail. Un accord reste en revanche nécessaire pour effectuer des recherches sur des embryons. Enfin, les députés ont également voté un amendement qui met fin à la technique dite du bébé médicament. Une technique selon laquelle un bébé est conçu afin de sauver un grand frère ou une grande sœur atteint d'une maladie génétique. Les bébés médicaments ont été autorisés à titre expérimental par une loi de 2004. Mais selon l'un des rapporteurs du projet de loi, cette pratique a été arrêtée en France il y a 5 ans.
Et j'ajoute qu'hier soir, à la toute fin de l'examen, les députés ont finalement rejeté la reconnaissance automatique de la filiation des enfants conçus par GPA dans un pays étranger. Cette proposition a fait l'objet d'un second vote. Rejeté donc pour ce second vote. Le vote solennel de l'ensemble du projet de loi aura lieu mardi prochain. Les enquêteurs à Rouen recherchent toujours l'origine de l'incendie qui a détruit une usine classée Seveso O il y a 2 semaines. Incendie qui a provoqué un épais panache de fumée et avec lui de la pollution. Selon nos confrères du Parisien ce matin, des vidéos laissent penser que le feu est parti de l'usine voisine Normandie Logistique. Ses dirigeants tiendront une conférence de presse dans la matinée. Voici maintenant une expérience inédite et dans l'air du temps qui veut tirer les leçons de la crise dite des Gilets jaunes il y a presque un an. De la concertation dans la fonction publique. Depuis hier, 50 agents sont rassemblés à Paris pour imaginer de nouvelles méthodes de travail plus efficaces et plus supportables. Ces agents ont en amont été choisis par leurs collègues pour les représenter. À leur côté, hier à Paris, Anne Lorchouin était présente pour France Culture, seul média à avoir pu assister à ces ateliers. Anne Lorchouin, la direction interministérielle de la transformation publique, a voulu montrer qu'elle peut changer et écouter.
20 000 propositions, 1,6 million de votes et 160 000 agents ayant participé. Voilà du côté des chiffres pour cette grande consultation lancée par la direction chargée de la transformation publique. C'était en février dernier. Elle a pour but de simplifier à tous les niveaux le fonctionnement de l'administration. Depuis hier et aujourd'hui, donc 50 agents qui ont vu leurs propositions plébiscitées réfléchissent ensemble à la façon de concrétiser leurs idées de changement. Thomas Cazenave, le délégué interministériel.
Si on n'arrive pas à transformer l'interne, on n'arrivera pas à retrouver cette confiance aussi des citoyens dans le fait que les politiques publiques se transforment vite, s'adaptent à leurs besoins et produisent des résultats. Regardez la période qu'on a traversée ces derniers temps. C'est aussi, d'une certaine manière, une crise de l'exécution, de la rapidité de mise en œuvre de nos réformes. C'est parce qu'on aura transformé l'interne qu'on sera aussi plus efficace et fier de ce qu'on fait.
Il y a des agents, parfois, malheureusement, qui veulent faire plus, mais qui n'ont pas forcément la formation pour faire.
Plusieurs grands thèmes ont émergé, l'adaptation et les moyens en outils informatiques au numérique, les problèmes de communication interne, internes et les problèmes de management. Gilles, chef de bureau aux affaires médicales à l'inspection académique de Gironde.
Moi, ce que j'observe, c'est un management qui est de plus en plus, non plus un facilitateur, mais plutôt un frein, qui s'intéresse de plus en plus uniquement à sa carrière, absolument pas aux missions publiques.
Comment on pourrait remédier, alors notamment à ce point-là?
Peut-être réduire le nombre d'échelons hiérarchiques, ce qui n'est pas la tendance actuelle. Il faudrait également des managers qui soient sélectionnés sur leur implication dans le service public.
Cette parole soudain libérée des agents publics, elle affleure aussi dans les propositions. La DITP aura la charge de les transmettre au Premier ministre et de faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre.
Et d'ici là, parole de fonctionnaires encore lors de ces ateliers organisés à Paris. C'est en exclusivité sur France Culture. Parole que vous retrouverez plus longuement dans le journal de 18h ce soir. Le temps sera moins agité ce jeudi, surtout cet après-midi. Il restera toutefois encore bien nuageux avec 12 degrés ce matin à Besançon, 13 à Lille, 14 à Paris, 15 degrés à Bordeaux et Lyon, 20 degrés ce matin à Nice.